Alors je vous salue. C'est toujours une joie d'être avec vous. Je salue nos amis de Cholet avec lesquels nous étions hier. Nous avons passé un excellent moment avec eux, comme toujours. C'est vrai que ce sont deux églises sympathiques. Vous savez pourquoi elles sont sympathiques, ces deux églises ? Pour deux raisons. Trois. La première, c'est parce qu'ils sont dans les Pays de la Loire, qui est la plus belle région de France, comme vous le savez. Une région qui m'a marqué quand j'étais jeune et dont je porte encore les marques. Ce sont des églises sympathiques parce que ce sont des églises de Jésus-Christ. Et la troisième raison, vous ne devinerez peut-être pas laquelle, c'est parce que ce sont des églises sympathiques parce qu'elles sont faites, constituées de gens sympathiques. Bon, après ça, je peux commencer. Alors, je ne commenterai pas l'allusion de votre pasteur à la rivalité entre Nantes et Angers. Je parlerai plutôt de l'amitié entre deux équipes qui s'apprécient. Je ne ferai pas de triomphalisme pour une raison toute simple. C'est que l'entraîneur nantais ne m'a pas fait rentrer dans l'équipe pendant le match. Donc je n'y suis pour rien. Et vous savez, un match, c'est un match. Certains vivent du football, bien sûr, et il faut bien vivre de quelque chose. C'est un métier comme un autre. Mais bon, un jour c'est l'un qui gagne, un jour c'est l'autre. Il n'y avait aucun danger pour l'un comme pour l'autre, en cas de perte, en cas de défaite. Donc je referme le chapitre et je me réjouis d'être avec vous. Et je me réjouis ce matin de pouvoir ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Alors si vous êtes à Angers, et vous êtes à Angers devant moi, si vous êtes à Cholet, nous allons ouvrir donc la parole de Dieu dans ce magnifique livre. Et ce matin, j'ai intitulé ce message « Une personne utile à la communauté ». Une personne utile à l'Église. Lorsque le prédicateur Charles Finet, je pense que personne ne l'a connu de son vivant, il a exercé le ministère au XIXe siècle. Il a été utilisé par Dieu pour faire de grandes choses, pour amener de nombreuses personnes au Seigneur, aussi bien aux États-Unis que dans d'autres pays du monde. Charles Finet prêchait dans différentes villes des États-Unis, il menait des campagnes d'évangélisation, comme on les appelait. Au cours de ces campagnes, donc, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes se sont converties. Et il aimait bien repasser, un peu comme l'apôtre Paul le faisait avec soit Barnabas, soit Silas, repasser quelque temps plus tard dans les églises qu'il avait fondées, ou bien où il avait mené des campagnes d'évangélisation. Et quand il parlait aux pasteurs de l'église locale, qui avait donc grandi à la suite de ces campagnes, il avait toujours cette question. Il disait, mais mon frère, est-ce que les chrétiens qui se sont convertis quand je suis passé la dernière fois sont utile à l'église locale? C'est une question étrange. On ne l'entend pas souvent. Je n'ai jamais entendu un pasteur poser cette question. Alors, je ne la pose pas, je cite Charles Finet. Et nous allons parler ce matin d'un homme qui s'est rendu utile à l'église. Parce que je crois que nous devons tous nous rendre utiles à l'église locale. Nous ne sommes pas là pour être servis, même si nous consommons, nous recevons la nourriture spirituelle. Mais nous ne sommes pas avant tout dans l'Église pour être servis, pour recevoir, même si nous recevons, bien évidemment. Je crois que nous sommes dans l'Église d'abord pour nous rendre utiles à l'œuvre de Dieu, utiles à l'Église locale. Nous allons lire dans Actes chapitre 4, un premier texte. à partir du verset 36, acte 4, verset 36, alors il est parlé de cette époque où les premiers temps de l'Église, dans les premiers temps de l'Église, l'Église vivait vraiment, je dirais, j'aime pas le mot, mais dans une sorte d'euphorie spirituelle. Mais ce n'était pas de l'euphorie au sens humain du terme. C'était l'action puissante du Saint-Esprit qui allait partout, qui faisait des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Alors bien sûr, certaines de ces choses, les premiers disciples les avaient vues du temps de Jésus. Enfin, du temps de Jésus, c'était quelques semaines avant, quelques mois, quelques années avant. Et ils ont vécu une transition avec le jour de la Pentecôte qui a révolutionné leur vie. Et je crois que le Saint-Esprit veut non seulement nous remplir, mais révolutionner notre vie, révolutionner la vie de l'Église. C'est sa vocation première. Et alors, dans cette ambiance extraordinaire, dans cette ambiance spirituelle, dans cette bénédiction permanente spirituelle, les gens, à un certain moment, ont été poussés à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant et peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup fait après. Au verset 34, nous lisons par exemple que personne n'était dans le besoin, ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres, et les apôtres distribuaient selon les besoins de chacun. Et au verset 36, nous lisons, « C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. » L'homme qui encourage. Nous allons parler ce matin de comment être utile à l'œuvre de Dieu. En prenant l'exemple de Barnabas, il est défini d'abord ici comme l'homme qui encourage. Et je précise, ce n'est pas lui qui s'était attribué ce surnom. Je ne sais pas si vous avez un surnom. Parfois, on nous donne des surnoms. Parfois, c'est dans la famille. Parfois, c'est les amis. Souvent, ce sont les amis. Mais là, il ne s'agit pas de n'importe qui, puisque la Bible dit « ce sont les apôtres ». C'est quelque chose. Par exemple, Jésus avait surnommé deux de ses disciples les fils du tonnerre. Hein, pas dans le sens « c'est du tonnerre ». Non, les fils du tonnerre parce qu'ils avaient un tempérament assez impétueux. D'ailleurs, on le voit dans certains épisodes de l'Évangile. Mais se faire appeler par Jésus, les fils du tonnerre, les gens qui sont emportés, ce n'est pas très, très, très bon. Mais là, il s'agit des apôtres, donc encore, on va dire, des autorités spirituelles de l'époque, qui l'ont surnommé l'homme qui encourage. Vous savez qu'il y a des gens qui découragent. Vous en connaissez? Il y en a aussi à Cholet, sans doute. Il y en a à Angers, il y en a en région parisienne, il y en a partout. Je me souviens de cette histoire réelle. Dans notre église à Paris, il y a quelques années, nous avions un certain nombre de personnes, une petite centaine de personnes, et un jour, l'une de nos sœurs en Christ est tombée gravement malade. Elle a été hospitalisée, opérée en urgence absolue d'une péritonite. C'est un problème avec lequel il ne faut pas plaisanter. Et elle est passée tout près de la mort. Et alors qu'elle se rétablissait dans sa chambre d'hôpital, une autre sœur de l'église est venue la voir et c'est la sœur hospitalisée qui me l'a raconté après. Elle m'a dit, cette sœur est venue me voir et pendant toute l'heure qu'elle a passée à mon chevet, elle a démoli tout le monde dans l'église. Et bien sûr, le pasteur que j'étais, il a eu droit, lui aussi. Pourquoi pas? Il ne faut pas qu'il y ait d'exception. Il faut que tout le monde soit traité de la même manière. Et je me suis dit, mais qu'est-elle venue faire à l'hôpital? Quand quelqu'un se remet d'une opération très sérieuse, il y a autre chose à faire que cela. Alors là, nous avions en fait une femme qui décourage. Vous n'êtes déjà pas en forme et on vous met dans une forme encore plus mauvaise. Bon, après, il faut se relever. Bon, la sœur s'est relevée, je vous rassure tout de suite. Mais ici, nous parlons d'un homme que les apôtres, rien de moins que les apôtres, ont appelé l'homme qui encourage. Vous aimeriez être appelé comme cela ? L'homme ou la femme, bien sûr, si vous êtes une femme. La femme, l'homme qui encourage les autres. Et s'ils l'ont appelé ainsi, et je vous rappelle que nous parlons d'une personne utile, comment être utile à l'église locale. S'ils l'ont appelé ainsi, c'est que cet homme-là encourageait souvent les gens. Je ne sais pas ce que vous vous dites le dimanche matin quand vous vous levez, ou même dans la semaine, mais en particulier le dimanche matin, quand vous savez que vous allez venir à l'église, est-ce que vous vous dites, bon, j'espère qu'il y aura une bonne prédication ce matin, j'espère qu'il y aura des bons chants. Bon, en principe, les chants sont bons. On ne chante pas des chansons populaires. On chante des cantiques quand même. La prédication devrait être bonne parce que, de toute façon, ce sera la prédication tirée de la parole de Dieu, de la Bible. Alors, si jamais le prédicateur ne vous plaît pas dans ce qu'il dit, retenez quand même les textes qu'il a lus dans la Bible. Ceux-là, ils sont garantis. Vous verrez pour le reste. Mais que nous disons-nous quand nous nous levons le dimanche matin ? Est-ce que nous disons cela ? Ou est-ce que nous disons, comme je crois c'était le cas de Barnabas, que pourrais-je faire pour l'Église aujourd'hui ? Qu'est-ce que ma présence pourrait apporter de bon ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un que je pourrais encourager ? L'Église a désespérément besoin d'être encouragée. Le peuple de Dieu a désespérément besoin d'être encouragé. Et j'ajoute, aucunement besoin d'être découragé. Parce que le découragement, ça viendra, à un moment ou à un autre. Mais nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ pour encourager les autres. En fait, notre raison de venir à l'Église est celle de pouvoir aider les autres, de pouvoir contribuer par ce que nous faisons. Par exemple, nos amis qui ont chanté, qui ont joué de la musique, ont participé à l'encouragement, quelque part, du peuple de Dieu. Et tous ceux qui interviennent pendant un culte, ou autour du culte, avant, après, parce qu'on peut encourager les gens aussi pendant, avant le culte, ou après. Il y a des moments qui sont aussi faits pour cela. Et je dirais que le moment qui précède ou celui qui suit le culte, ce sont des moments importants parce qu'on a l'occasion justement d'exercer ce que j'appellerais le ministère de l'encouragement. On a toujours plus ou moins besoin d'être encouragé. Et je crois que ce que faisait Barnabas pour que les apôtres aient fini par l'appeler Barnabas, et non seulement cela, à cet endroit-là du texte, mais dans tout le Nouveau Testament, Barnabas, on ne l'appelle pas de son vrai nom Joseph, on l'appelle Barnabas, l'homme qui encourage. C'est comme si on disait, au lieu de dire Daniel Leroux ou Philippe Le Perru, on disait, tu sais qui c'est qui vient prêcher dimanche, c'est l'homme qui encourage. Ou tu sais qui on a comme pasteur à Angers ou à Cholet ? L'homme qui encourage. Ah oui, tu veux parler de Daniel Leroux, tu veux parler de... Ou on pourrait dire, parce qu'après tout, Barnabas n'était pas un apôtre encore à l'époque. Le Nouveau Testament, enfin le livre des Actes, dans chapitre 4, nous le présente simplement comme un certain Joseph. On ne dit jamais, quand Paul est apôtre, un certain Paul. Non, un certain Joseph possédait un champ. Possédait un terrain. Les apôtres le surnommaient, donc il était un simple croyant, un simple membre de l'Église. Et on l'avait, les apôtres le surnommaient celui qui encourage. C'est là qu'on voit que n'importe lequel d'entre nous peut faire ce travail. N'importe lequel d'entre nous peut exercer ce ministère si utile à l'Église. Alors nous allons lire maintenant un autre texte dans le chapitre 11 pour voir une autre caractéristique, ou plutôt trois autres caractéristiques de l'homme ou de la femme qui est utile à la communauté. Acte des apôtres, chapitre 11, à partir du verset 19. « Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas et Antioche à Antioche. À son arrivée, il constata que ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Amen. Voilà le complément d'information sur l'homme qui se rend utile. Et je dis encore une fois, ça pourrait être une femme, l'homme qui, ou la femme qui se rend utile à l'église locale ou à l'église en général. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui encourage, qui a le souci d'encourager les autres. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui pense d'abord à soi, mais quelqu'un qui pense aux autres, à ce qu'il peut apporter aux autres. Pas seulement quelqu'un qui encourage, mais ici nous avons trois paroles. C'est aussi quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est rempli d'Esprit Saint et quelqu'un qui est rempli de foi. Moi, je prie que le jour vienne où le peuple de Dieu, quel que soit l'endroit, pas seulement à Angers ou à Cholet, mais dans toutes les villes, dans toutes les églises du monde entier, il y aura des hommes et des femmes qui encouragent, qui sont bienveillants, qui sont remplis d'Esprit Saint, qui sont remplis de foi. Parce que je crois qu'alors l'Église progressera encore plus. Là, il faudra construire encore un autre local, Daniel. Enfin, ce sera peut-être plus toi, enfin, à moins que ça vienne vite. Mais l'Église doit être une Église forte. Barnabas est appelé ici, donc l'homme qui encourage est appelé ici un homme bon. C'est étonnant de lire cet adjectif sous la plume de Luc. Car dans son évangile, l'évangile de Luc, il avait rapporté ces paroles de Jésus, à savoir que « il n'y a de bon que Dieu seul ». Vous rappelez cette histoire, un chef interrogea Jésus et dit « bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul ». Et dans le texte original de la Bible en grec, c'est le même mot exactement que Luc utilise ici et dans les Actes des Apôtres pour décrire Barnabas. Alors certains vont s'interroger, certains vont se lancer dans des débats. Est-ce que Dieu seul est bon ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que Barnabas est bon, etc. Je laisse les débats théologiques à ceux qui les aiment. Moi, je lis la Bible et je vois qu'ici, Luc emploie le même mot. Et après tout, c'est fort logique. Pourquoi ? Parce que la bonté ou la bienveillance, dans Galates 5, 22, c'est décrit comme étant un des aspects du fruit de l'esprit. De l'esprit de qui ? De l'esprit de Dieu. Le fruit de l'esprit vient se développer en nous, et normalement, il se développe dans tous les chrétiens. Ce n'est pas que certains l'ont, ou certains en ont une partie. J'ai entendu parfois des gens me dire « oh, le fruit de l'esprit, c'est bien, mais moi, il y en a un ou deux aspects qui ne sont pas pour moi. » Et comme par hasard, c'est souvent la patience que l'on cite. Comme si l'esprit venait en nous quand nous nous convertissons, et il disait « tiens, Daniel, oh, je vais lui donner l'amour, la foi, la bonté, la bienveillance, mais je ne vais pas lui donner la patience, ou je ne vais pas lui donner la maîtrise de soi. » Non, je te cite toi, parce que comme ça j'aurai moins d'ennuis. On réglera ça dans la journée. Bon, mais ça pourrait être n'importe qui. D'ailleurs, il y en a peut-être qui se reconnaissent. Il y en a peut-être qui ont déjà dit ça. Moi, j'ai entendu des chrétiens dire « la patience, non, ce n'est pas vraiment mon truc. » Mais il ne s'agit pas de truc. il s'agit du fruit de l'esprit qui doit pousser normalement si vous êtes un chrétien normal. C'est comme si mon cerisier, enfin, nous avons deux cerisiers dans le jardin. C'est pour bientôt d'ailleurs, les cerises. C'est pour bientôt, si le climat ne change pas trop d'ici là. Bon, et c'est comme si le cerisier disait, au moins cette année, je vais faire 80% de cerises et 20% d'abricots. Non ? Il n'a pas le choix. À la limite, il a le choix entre faire des bonnes cerises ou ne pas en faire, ou en faire des cerises qui ne sont pas très bonnes, à cause souvent du climat. Eh bien, le fruit de l'esprit, c'est pareil. Nous ne pouvons pas choisir. L'amour, c'est pour tout le monde. Et il doit se développer dans tous les cœurs de tous les chrétiens. La bonté, la bienveillance, la patience, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh Jésus, je n'ai pas tous en tête là. De toute façon, ce n'est pas mon thème ce matin. C'est juste la bienveillance. La bienveillance, c'est pour tous les chrétiens aussi. Qu'est-ce que la bienveillance ? La bienveillance, c'est cette disposition qui nous permet de toujours chercher à faire le bien. Mais j'irai plus loin, je dirais, c'est aussi la disposition qui nous permet de voir le bien chez l'autre. Quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui non seulement est bon envers les autres, qui cherche toujours à faire du bien. Un ami me disait un jour, quand je serai en retraite, j'aimerais passer mon temps à faire du bien. Malheureusement, il est mort tragiquement quelques années après son départ en retraite. Mais c'est un bon programme. C'est une bonne disposition. Mais la bienveillance, c'est aussi, nous le voyons dans l'histoire que nous venons de lire à Antioche, c'est aussi la capacité de voir le bien. Vous savez qu'il y a des gens qui voient le mal partout. Quoi qu'il arrive, ils sont toujours pessimistes. C'est toujours dramatique. De toute façon, c'est comme ça, ça va toujours être comme ça, ça ne changera pas. C'était comme ça de mon temps. J'aime bien les gens qui disent « de mon temps ». De mon temps. Hein, rappelle-toi, Daniel, de notre temps. Et puis, alors, quand les gens me disent cela, je dis « pourquoi vous êtes mort ?» Vous n'aurez le droit de dire ça que quand vous serez mort. De mon temps, c'était bien, c'était mieux que maintenant. Non, c'est toujours votre temps puisque vous êtes là. Mais, et il y a des gens qui pensent que ce qui était avant, c'était bien, et ce qui est maintenant, c'est pire. Et c'est, j'entends souvent dire, c'est de pire en pire. Alors, vous savez, ça prouve une seule chose. Ça prouve que les gens qui disent cela n'ont pas vécu avant. Parce que des choses pires, il y en avait avant aussi. Des choses terribles, il y en avait aussi avant. La Bible le montre. L'histoire le montre et le confirme aussi. Il y a eu des temps terribles, il y a eu des gens qui se comportaient de manière terrible. On dit, mais il y a de plus en plus de violence. Vous auriez aimé vivre au Moyen-Âge ? Au Moyen-Âge, vous ne seriez jamais sorti dans la rue le soir. Vous auriez été agressé. Et personne n'y échappait. Certains historiens nous racontent les conditions de vie à l'époque. J'ai même lu qu'un historien avait dit, en parlant de l'époque, un bon roi, c'est un roi sous le règne duquel les personnes, et en particulier les femmes, peuvent sortir dans la rue sans être importunées, le soir. Alors si on applique la même chose à nos présidents, il n'y aura jamais de bon président comme il n'y a jamais eu de bon roi. Les temps ne sont pas plus terribles. Nous avons désespérément besoin de personnes qui voient le bien, même s'il y a du mal. Il y a des gens qui ont cette capacité, ce sont des gens bienveillants. Et Barnabas était de ceux-là, des gens qui sont capables de voir dans une situation le bien chez une personne. Vous savez que cette vision de Barnabas, cette vision qu'il a eue dans l'église d'Antioche quand il a été envoyé, il y a eu un problème, Excusez le problème, pour nous ce n'est pas un problème aujourd'hui, bien sûr, parce que les temps ont changé, mais à l'époque, les premiers disciples ont pensé que l'évangile était uniquement pour le peuple juif, qui était le peuple élu. Ils pensaient que personne d'autre ne pouvait être sauvé, alors que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des gens extérieurs au peuple d'Israël qui avaient été bénis par Dieu. Mais ils avaient cette vision étriquée. Et alors, lorsqu'ils ont entendu dire qu'à Antioche, il y avait des gens qui avaient commencé à prêcher l'évangile aux non-juifs. Bon, il y a une petite convention de pasteurs à Jérusalem, là. Et ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Des gens qui commencent à prêcher aux non-juifs. Et vous savez, dans ces moments-là, ils ont décidé d'envoyer quelqu'un. Mais qui ? Parce que dans ces moments-là, une bonne partie de la chose va dépendre de qui on envoie. Si on envoie un frère bien carré, et même plus que ça, un frère qui n'a pas la vision ouverte, mais comme ça, ok ? On aura un rapport. Alors ils ont réfléchi. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont choisi un homme qui était de même origine que ceux qui avaient fait cela. De même origine. Quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre. Barnabas était originaire de Chypre. Originaires de Chypre se rendirent à Antioche et s'adressèrent ainsi aux non-juifs. Aussi aux non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle. Et il est dit, or le Seigneur était avec eux, ça c'est bien, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Mais la nouvelle est arrivée à Jérusalem, et alors ils ont choisi, ils ont dit, qui on pourrait envoyer ? Il faudrait quelqu'un qui puisse comprendre la situation. Et tiens, ben, on a quelqu'un. Vous savez, l'homme qui encourage. Ils auraient pu envoyer l'homme qui voit tout en noir, ou l'homme qui critique tout le temps. L'homme qui voit le mal partout. Non, ils ont envoyé l'homme qui encourage parce que aussi c'était un homme de même origine que ceux qui avaient fait cela. Moi, j'aurais appelé ça du favoritisme. Pour eux, c'était de l'inspiration. Comme quoi, chacun voit ce qu'il veut voir. Mais c'était capital d'envoyer cet homme-là. Pas seulement parce qu'il encourageait les autres. Il voyait toujours le bien. C'était un homme bienveillant. Il voyait le bien chez l'autre. Il ne cherchait pas à juger, il cherchait juste à comprendre les gens, comprendre la situation. Et lorsqu'il est arrivé à Antioche, visiblement sans aucun préjugé, il s'est installé dans l'église, puis il a regardé. Je pense qu'il était un peu curieux, Barnabas, de voir ce qui se passait. Il a regardé, puis il a écouté, il a vu les chants. Peut-être la musique n'était pas la même qu'à Jérusalem. Hein, on ne sait pas du tout quelle musique ils jouaient dans les églises à l'époque. Bon, je ne vais pas toucher ça parce que je n'ai pas d'informations. Mais il a écouté les musiciens, il a dit, tiens, ce n'est pas le même style que chez nous. C'est un peu différent, c'est peut-être un peu moderne. Bon, il a écouté les témoignages. C'était des gens qui n'étaient pas juifs, qui rendaient témoignage de l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre correspondait en tout point à celle qui avait eu lieu à Jérusalem, chez les Juifs convertis. Alors, la Bible dit cette phrase que j'aime beaucoup, « À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. » D'autres versions disent « Il vit la grâce de Dieu. » Ce n'est pas le détail qui intéresse Luc dans son récit. C'est la chose dans sa globalité. Il y avait peut-être des petits détails, peut-être qu'il s'est dit, oui c'est vrai, j'ai vu une sœur là qui était un peu bizarre, j'ai vu un frère qui me faisait une drôle d'impression. Mais bon, d'une manière globale, j'ai vu l'œuvre de Dieu. J'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu ce Dieu qui fait grâce à tous les pécheurs et à toutes les personnes, quelle que soit leur conduite passée. Il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il s'est réjoui. Il y a des gens qui ne savent plus se réjouir parce qu'ils sont tellement habitués à voir le mal partout ou le petit détail qui gêne. Mes amis, ne regardons pas les petits détails. Regardons les gros détails, qui ne sont plus des détails parce qu'ils sont gros. Regardons les choses essentielles. Est-ce que la personne a changé de vie? Oui ou non? Oui. Oui, mais t'as vu, il met encore... aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Dans le temps, on aurait dit, il vient au culte, le frère, là, sans costume cravate. Ah oui, il y a eu une époque où... Moi, j'avais 14-15 ans, j'ai des photos à la maison, avec mes deux frères, deux qui ont à peu près le même âge que moi, et on est sur le parking de l'église à Nantes, là, Québaco. 14, 15, 17 ans, costume, cravate. Et chemise blanche. Pour ça qu'aujourd'hui, je mets rarement des chemises blanches, que j'en ai mis pendant toute une époque. Et à l'époque, vous ne seriez pas rentré à l'église sans ça. Aujourd'hui, vous avez vu des garçons de 14-15 ans qui viennent à l'église en costume cravate, il y en a ? Alors, nos papillons, c'est déjà pas tout à fait pareil. Mais c'est quand même plus rare. Je crois que la dernière fois que j'en ai vu, c'était au début des années 80, dans notre église à Paris, il y avait un frère qui venait de temps en temps avec sa femme. Je ne sais plus combien d'enfants ils avaient, il y en avait au moins 4 ou 5 garçons. Ils avaient entre 10 et 17 ans. Chemise blanche, costume, cravate. Mais c'était des rescapés d'une époque antique. Enfin, c'est comme ça que je les voyais. Alors, revenons à Barnabas. Il est à Antioche. Il est à Antioche. Et il voit la grâce de Dieu. Il voit des frères et sœurs qui disent les mêmes choses qu'à Jérusalem, ou dans la Judée. Il voit des frères et sœurs qui chantent avec joie, qui sont épanouis. Il entend raconter leur histoire, dit « si tu savais comment il était avant ». Il dit « à Jérusalem aussi, on en a des comme ça. Avant, ils étaient comme cela. » Mais comme dit la pub, ça, c'était avant. Maintenant, ils sont complètement transformés. Ils vivent une vie nouvelle. Et qu'est-ce qu'il a fait en voyant cela, Barnabas? Il n'est pas dit qu'il a pris son calepin et qu'il a noté, il a pris des notes, il a regardé, etc. Non, il est dit, il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Il ne sait faire que ça, Barnabas. Encourager partout où il va. Encourager, ça veut dire... donner du courage, fortifier. Le même mot en grec veut dire à la fois, et ce n'est pas n'importe quel mot, puisqu'il est utilisé par Jésus pour décrire le Saint-Esprit. C'est le mot grec qu'on a traduit en français par paraclète, et qui veut dire, qui décrit le Saint-Esprit dans son œuvre d'encouragement, d'exhortation, de consolation, entre autres. C'est celui que l'on appelle à côté de soi pour nous soutenir. Voilà ce que ce frère fait. Pourquoi ? Pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Donc, il développe sa propre nature. Si vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, vous deviendrez automatiquement un chrétien qui encourage les autres. Donc, un chrétien bienveillant. Sa bienveillance à Barnabas, elle s'exprime par le fait qu'il voit les choses et il les voit sans arrière-pensée, sans préjugés. Je dirais que c'est normal qu'il voit les gens comme cela, parce qu'il est habité par l'Esprit de Dieu, nous allons le voir dans quelques instants. Il est rempli du Saint-Esprit aussi. Donc sa vision est toujours une vision bienveillante, parce que Dieu a une vision bienveillante. Dieu nous voit non pas tel que nous sommes, mais tel qu'il peut nous faire devenir. Dès le départ, c'était comme cela. Au départ, Dieu nous a vus tels que nous étions et nous n'étions pas beaux à voir, excusez-moi. Même pour ceux qui physiquement étaient beaux ou belles, ça c'est pas l'essentiel. Dieu nous a vus tels que nous étions, mais en même temps, il nous a vus tels que nous allions devenir. On raconte cette histoire de, je crois que c'est Michel-Ange. Un jour, il se promenait dans une rue de Florence et il a vu un gros morceau de marbre, énorme morceau de marbre qu'un artisan avait jeté dans son jardin, dans son atelier, pas dans son atelier, dans son jardin, comme pour dire, bon, qui veut le prendre, le prend. Parce qu'il avait vu ce morceau de barbe, il se dit, mais qu'est-ce que je peux en faire de ça? Rien. Bon, je vais ça. Si quelqu'un veut le prendre, bon. Et puis, Michel-Ange est passé par là. Puis il a dit, mais votre morceau de marbre, là, enfin, c'était pas un morceau, c'était énorme, de la taille d'un homme. Il a dit, vous l'avez jeté, vous le mettez pour que n'importe qui puisse le prendre. Il dit, oh, je peux rien en faire de ce morceau, rien. Si vous voulez le prendre, débrouillez-vous, faites, oui, il faut quand même de l'aide pour soulever un morceau de marbre de la taille d'un homme. Il dit, et puis prenez-le, moi je vous le donne. En voyant ce morceau de marbre, Michel-Ange n'a pas vu le morceau de marbre. Il a déjà imaginé le David qu'il allait pouvoir sculpter dans ce morceau de marbre et qui, depuis l'époque, est exposé quelque part dans le centre de Rome. Il n'a pas vu le marbre. Il a vu ce qu'il pouvait en faire, ce qui pouvait le faire devenir. Et maintenant, le monde entier va admirer cette statue aux proportions parfaites. Tout ça parce qu'il a eu une vision bienveillante. On pourrait dire presque qu'il a bien vu ce qu'on pouvait en faire. Dieu est un Dieu bienveillant qui, lorsqu'il nous a sauvés, ne nous a pas vus seulement tels que nous étions. Bien sûr, il nous a vus comme cela, mais il a tout de suite vu ce qu'il pouvait faire de nous si nous allions être coopératifs, si nous allions accepter de le laisser nous sculpter à son image. La vision bienveillante, c'est cette vision qui voit le bien d'abord. Alors, je vais bientôt terminer. L'homme utile à la communauté, la personne utile à la communauté, est également une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Les premiers apôtres avaient une vision très claire des choses. Pour toute tâche, ils voulaient des gens remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'il s'est agi dans Actes 6, de choisir des hommes qui allaient pouvoir servir aux tables, parce que oui, mes sœurs, à l'époque, c'était les hommes qui servaient aux tables. C'est bien cela, hein? OK? Bon, maintenant, ça change aussi un petit peu de ce côté-là. Les hommes coopèrent un peu plus. Et il voulait choisir des hommes pour servir aux tables parce qu'il y avait des jalousies entre femmes d'origine grecque et femmes d'origine juive. Et apparemment, les Grecs étaient un petit peu négligés dans la distribution de la nourriture. Il s'agissait évidemment des personnes qui avaient moins de moyens et que l'Église aidait à nourrir. Alors, ils ont choisi 7 hommes et dans l'une des caractéristiques de ces hommes-là, dans le profil de ces hommes-là, ils ont inséré la mention « Il faut que ce soit des hommes remplis du Saint-Esprit ». Pour servir aux tables, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Et je crois qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit pour vivre cette vie des premiers apôtres. Dans Actes chapitre 5, nous voyons juste après le texte que nous avons lu tout à l'heure sur le don du produit de sa vente de son terrain de Barnabas, nous avons l'histoire d'Ananias et Saphira qui veulent imiter, pour se faire bien voir, qui veulent imiter Barnabas. Alors, ils ont un champ, ils se mettent d'accord pour le vendre, et puis ils vont faire juste comme Barnabas, ils vont apporter l'argent aux pieds des apôtres. Sauf qu'avant d'apporter l'argent, ils ont décidé d'en garder une bonne partie pour eux. Ils disent, on va apporter l'argent, comme ça tout le monde pensera qu'on a donné tout. Raisonnement simple ou simpliste. Ils avaient oublié juste un tout petit détail. Le Saint-Esprit était descendu sur les chrétiens le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit voit tout. Il lit dans les cœurs et il voit les actions. Le Saint-Esprit a vu la somme d'argent qui est restée dans le coffre-fort chez monsieur et madame Ananias et Saphira. Et lorsqu'ils ont apporté l'argent, tout heureux, tu vois, les chrétiens commençaient peut-être pendant qu'ils descendaient l'allée, et les chrétiens disaient « Oh, c'est bien ce qu'ils font, t'as vu. Eux aussi, ils font comme Barnabas. » Et puis, pan ! Ah oui, pan ! Foudroyé, crise cardiaque. Enfin, j'interprète ça comme ça. Vous savez, je crois qu'ils ont eu une crise cardiaque, l'un après l'autre. Lui, parce qu'il a été tellement surpris que Pierre et découvert, excusez-moi l'expression, l'arnaque, ça a été un coup terrible devant tout le monde en plus. Il pensait être honoré devant tout le monde, puis... Et je crois que son cœur a cédé et il est tombé par terre. Et quand sa femme est venue quelques heures plus tard, et que Pierre lui a raconté ce qui était passé à son mari, il dit « Ceux qui sont partis ensevelir ton mari vont venir faire pareil avec toi. » Je me demande des fois, si ça arrivait dans nos églises aujourd'hui, on aurait des problèmes, je crois, avec les autorités. Si les gens mouraient foudroyés d'une crise cardiaque en plein culte, là, Daniel, je crois que tu aurais des problèmes. Il ne faudrait pas que je sois invité à prêcher ce jour-là, parce qu'ils m'emmèneraient avec. Il fallait la puissance du Saint-Esprit pour voir cela. Il a fallu, juste encore un exemple, il a fallu la puissance du Saint-Esprit quand Paul et Barnabas étaient dans la ville de Lystre, Actes chapitre 14, et qu'il y avait là au premier rang un homme qui n'avait jamais marché de sa vie, un homme paralysé. Et il est dit qu'à un certain moment, Paul a vu que cet homme, et là il fallait le Saint-Esprit aussi, il fallait être rempli du Saint-Esprit, a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Alors il lui a dit, lève-toi sur tes pieds. Et l'homme s'est levé et il a marché pour la première fois de sa vie. Mais vous savez où je crois qu'il fallait surtout être rempli du Saint-Esprit, c'est quand les habitants de la ville qui étaient là ont vu le miracle et que certains ont dit, ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux qui sont descendus sur terre pour faire un tel miracle. Et là où je crois que le Saint-Esprit a dû être à l'action dans le cœur de Paul et Barnabas, c'est ce que j'appelle quand il les a aidés à résister à la tentation du vedettariat. Oui, oui, on dirait ça aujourd'hui, pour parler de termes modernes, aujourd'hui on dirait, oui, oui, le frère dirait, oui, oui, je reconnais que Dieu s'est servi de moi pour faire ce grand miracle. Vous savez, mes frères, ils feraient de la pub partout, sur Facebook, sur Twitter, sur je ne sais quoi encore. Le Seigneur a fait de grands miracles dans notre mission cette semaine. J'ai prié pour un paralysé, il a marché tout de suite. J'ai prié pour un tel. Oh frère, c'est formidable, vous êtes merveilleux. Revenez souvent nous voir. C'est un peu ça qui s'est passé. Mais Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil, en signe de consternation. Il est dit, ils furent consternés. Ils étaient tellement empreints de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, et de l'humilité de l'homme devant cette puissance, qu'ils ont déchiré leurs vêtements parce qu'ils ont trouvé cela scandaleux, qu'on les prenne pour des dieux, alors qu'ils n'étaient que des instruments humains entre les mains de Dieu. Vous savez, parfois, on a cette expression, on dit, c'est un grand homme de Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est l'homme d'un grand Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il y a des hommes, oui, que Dieu a utilisés de manière extraordinaire. Certainement parce qu'ils ont été dociles entre les mains de Dieu. Mais je préfère dire, ce sont les hommes d'un grand Dieu. C'est comme cela que Paul et Barnabas se sont conduits. Il fallait toute la puissance du Saint-Esprit pour cela. Dernier détail sur ce thème, il faut toute la puissance du Saint-Esprit quand Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Et juste après, il dit « Soyez soumis les uns aux autres. » Mes amis, ne cherchez pas à le faire par vous-même. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour se soumettre les uns aux autres, dans l'humilité, sachant que Dieu se sert de lui ou de elle comme il le veut. Je n'ai pas à vouloir être utilisé par Dieu de la même manière. Je dois juste être docile entre les mains de Dieu et être rempli de son esprit. Je termine. C'était un homme aussi rempli de foi. La Bible dit que Dieu nous a donné à chacun une mesure de foi. Tous. L'être humain a été créé avec cette capacité de croire. Et même si nous disons que nous n'avons pas de foi, nous en avons. En fait, la réalité, c'est que nous croyons ce que nous choisissons de croire. nous croyons ce que nous voulons. Et cette capacité que nous avons de mettre notre confiance ou d'accepter ce que quelqu'un dit comme étant vrai, nous pouvons l'utiliser aussi pour Dieu. La foi, c'est quelque chose de naturel. Alors Dieu peut la faire devenir surnaturelle. La foi du chrétien doit être nourrie. Elle ne grandit pas toute seule. La Bible dit que la parole, le texte dit « la foi vient de ce qu'on entend, mais pas de tout et n'importe quoi, pas de ce qu'on entend au journal télévisé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rien ne peut fortifier notre foi davantage que la parole de Christ. Et quand cette foi est bien nourrie, elle se développe. Il faut l'exercer. Il y a des moments, moi je sais qu'il y a des moments où j'hésite entre croire et ne pas croire. Il y a un dilemme, de temps en temps je le ressens. Je me dis, tu sais Philippe, tu as le choix. Tu peux faire confiance à Dieu, même si ça semble un peu difficile là, mais tu peux faire confiance à Dieu, puis tu peux ne pas faire confiance, tu peux douter. Tu peux continuer à douter et t'enfoncer dans tes doutes. Mais sache une chose, c'est que tu n'avanceras pas. La foi comporte toujours un risque. L'homme à qui Jésus a dit, il faut, vous savez, ce centenier qui avait un enfant malade, cet officier royal qui avait un enfant malade, Dieu lui a dit, va. Jésus lui a dit, va. Il habitait à 40 kilomètres. Va. Ton fils vit. Lui voulait que Jésus vienne avec lui. Jésus lui a dit, tu peux y aller tout seul. Ton fils est vivant. Ton fils va vivre. Il aurait pu dire, mais Seigneur, non, non, pas question, tu viens avec moi. Sinon, j'aurais l'air de quoi si, quand j'arrive, mon fils est mort. Mais si tu es avec moi, bon, bah, à la limite, tu pourras le ressusciter. Non, Jésus lui a dit, va. Il a pris un risque, celui de partir, et le risque était aussi de trouver son enfant mort. Mais il était confiant. La Bible dit, il a cru Jésus sur parole. Il est parti, et il a eu ce qu'il méritait. Bah, on ne mérite rien, mais... il a eu ce que sa foi lui a donné, à savoir la guérison de son fils. Barnabas était un homme de foi, et lorsque l'ancien persécuteur numéro un de l'Église s'est converti, il y a eu quand même un drôle de sentiment dans l'Église de l'époque. Certains ont pensé qu'il jouait une comédie pour mieux les avoir, pour mieux les persécuter, pour mieux les arrêter. Certains n'y ont pas cru à la conversion de Paul. Mais c'est Barnabas, l'homme de foi, qui est allé, qui, comme il avait reconnu le salut et la grâce de Dieu à Antioche, a reconnu dans Paul un homme nouveau. Et il l'a emmené, et il l'a présenté. Et la Bible dit que quand Barnabas a présenté Paul et a parlé de lui comme d'un homme nouveau, les chrétiens l'ont écouté. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit, même quand nous n'avons aucun élément pour ne le confirmer. Nous savons que Dieu l'a dit. Et parce que nous croyons, nous pouvons choisir de ne pas le croire. Mais si nous le croyons, nous récolterons le bienfait, les bénéfices de notre foi. Alors, frères et sœurs, je termine en résumant. Soyons. Déterminons-nous à être, soyons déterminés à être des hommes et des femmes de foi, c'est-à-dire d'abord des gens qui encouragent les autres, qui sont bienveillants dans leur attitude et dans leur vision, qui sont remplis du Saint-Esprit et remplis de foi. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez à Angers ou à Cholet ou ailleurs.